Voilà, bonjour. Merci pour votre accueil, merci pour le privilège d'être avec vous ce matin. Je crois que la première fois que j'étais venu, c'était du temps de Paul Turquet. Ce nom m'a dit quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'était des années 96 ou 97, par là. Et merci pour le privilège d'être de nouveau parmi vous ce matin. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'habite entre Grenoble et Chambéry. Là-bas, et donc je suis responsable de portes ouvertes pour la région sud-est de la France, de Annemasse jusqu'à Perpignan, en passant par Clermont-Ferrand et Vichy, c'est la limite de ma zone. Et donc je travaille avec portes ouvertes. Certains connaissent peut-être déjà portes ouvertes depuis longtemps. Et j'aimerais en dire quelques mots ce matin pour ceux qui ne connaîtraient pas. D'abord, merci aux jeunes d'être là. J'ai passé une bonne soirée avec vous. Hier soir, c'était un grand privilège d'être avec vous. Merci de pouvoir partager sur la contrebande de Bible. Ah là là. Hein? Voilà, alors, portes ouvertes, si tu veux passer, merci. Portes ouvertes a bien évolué depuis 1955. C'était le premier voyage en Europe de l'Est. C'était un chrétien hollandais, un jeune, il avait 27 ans, et puis voilà, il fait un voyage derrière le rideau de fer dans un pays communiste, et il rencontre des chrétiens derrière le rideau de fer, et il leur demande « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Vous savez, ça c'est une question dangereuse, hein, parce que quand on vous répond, voilà, vous êtes, engagé. Hein. Alors ces chrétiens derrière leur rideau de fer disent « Eh bien, les communistes ont brûlé nos Bibles, apportez-nous des Bibles. » Et donc ce jeune Hollandais retourne chez lui en Hollande, quelques temps après, il met des Bibles dans sa voiture, dans sa Volkswagen, et puis il se dirige vers la douane, et il passe, il prie, « Seigneur, tu as ouvert les yeux des aveugles quand tu étais sur la terre, alors s'il te plaît, ferme les yeux des douaniers. » Et donc, miraculeusement, il passe la douane et il apporte ses Bibles à ses frères et sœurs derrière le rideau de fer qui lui disent « Ben écoute, il nous en faut plus. Il faut que tu recommences, il faut que tu continues. » Et puis voilà, plus il va en porter, plus on lui en demande et il s'aperçoit que le besoin de Bible derrière le rideau de fer est énorme. Et donc d'autres se joignent à lui. Vas-y, continue. Et donc d'un inconnu, il passe à son œuvre pionnière, il passe à un travail d'équipe avec d'autres personnes qui l'aident à faire ce travail. Et puis il diffuse son livre « Le contrebandier » que certains d'entre vous connaissent déjà certainement, qui est paru en 1967, quelque chose comme ça, que j'ai lu, j'avais, j'ose pas le dire, 13 ans, 14 ans, hein, mais qui, c'est vrai, a marqué mon enfance. Vas-y. Alors, Portes Ouvertes ensuite devient internationale, en mettant des bureaux dans des pays libres pour faire l'information, comme aujourd'hui, pour faire le magazine Portes Ouvertes, les emails, les sites internet, etc., et aussi pour travailler dans ces pays où il y a la persécution. Vas-y. Alors, de quelques Bibles dans une voiture, ça passe à 1 million de Bibles dans une barge, dans une péniche, tirée par un remorqueur sur une plage de la Chine en 1981. Et ce 1 million de Bibles, eh bien, est arrivé entre les mains de ces chrétiens chinois qui étaient là sur la plage, qui les attendaient. Et ça a aidé ce réveil en Chine, puisqu'il y avait à peu près un million de chrétiens chinois en 49, quand Mao a pris le pouvoir suite aux missions Hudson Taylor et d'autres missions en Chine, là-bas. Mais tous les étrangers sont partis. L'Église a été fortement persécutée pendant la révolution culturelle. Mais aujourd'hui, eh bien, ils sont à peu près environ 90 millions de chrétiens en Chine. Alors, ils sont passés de 1 million en 49 à 90 millions aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup besoin de Bible dans ce pays où c'était interdit dans les années 80, 90 et même année 2000. Aujourd'hui, il y a un peu plus de liberté. C'est vrai, si vous pouvez trouver des Bibles à Shanghai, dans des librairies, c'est un peu plus libre. Mais s'il y a des églises officielles, il y a encore des églises de maison qui envoient des évangélistes parcourir la Chine pour apporter l'évangile à l'intérieur de la Chine. Et ces pasteurs, ces évangélistes sont encore, de ces églises de maison, sont encore traqués aujourd'hui par la police dans certaines régions. Voilà. Et puis, vas-y, continue. Et puis, Portes Ouvertes s'est aperçu qu'il n'y avait pas que les chrétiens sous le communisme qui étaient persécutés, et qu'il y avait aussi d'autres endroits où les chrétiens sont persécutés. Il y a les chrétiens sous l'islam, dans les pays islamiques, les chrétiens dans les pays bouddhistes, les chrétiens sous l'hindouisme, et les chrétiens dans certaines régions où il y a des guérillas, comme par exemple la Colombie. dans les régions contrôlées par les FARC, les ELN, en Mexique aussi, les régions contrôlées par les zapatistes ou par les caciques. Eh bien, rien qu'en Colombie, plus de 50 pasteurs ont été tués par des FARC. Alors, Portes Ouvertes s'est mis donc à élargir son champ d'action pour soutenir l'Église persécutée. Et puis, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas besoin que de Bible non plus. Il y avait besoin, ces chrétiens nous demandaient aussi des formations bibliques pour ces églises de maison. Une église de maison, ce n'est pas une église où il y a 100 ou 200 personnes. C'est souvent 10, 15, 20 maximum pour ne pas se faire repérer. Donc, il y avait besoin de beaucoup de formations de responsables, que ce soit au Vietnam, en Chine et aussi dans les pays islamiques. Donc, Portes Ouvertes a développé des formations bibliques de base et pour aider ces chrétiens à les former. Et puis aussi des formations tenir ferme dans la tempête. Ce sont des formations spécifiques pour aider ces chrétiens à répondre bibliquement face à la persécution. Quand vous êtes attaqué, quand on vient tuer votre femme, vos enfants ou votre mari sous vos yeux, qu'on vient détruire l'église, eh bien, certains chrétiens se disent « on va aller détruire ». On va aller se venger. Et c'est l'escalade de la violence, et ce n'est pas une réponse biblique face à la persécution, mais ces chrétiens ont beaucoup besoin qu'on les aide, qu'on les encourage, qu'on les fortifie leur foi, pour répondre bibliquement face à la persécution et à la difficulté. Donc ce sont des formations aussi bien dans des pays où il y a la persécution que dans des pays où on sent que la persécution arrive. En Inde, les pasteurs, il y a quelques années, ils nous disaient « Non, on n'a pas besoin de ces formations bibliques ». Et puis aujourd'hui, eh bien, ils nous les demandent beaucoup, en Inde par exemple, et en Indonésie, pour les aider à se préparer aussi à la persécution. Et puis, Portes Ouvertes s'est aperçu mais qu'il y avait besoin aussi d'aide matérielle pour ces chrétiens qui ont tout perdu à cause de leur foi. Nous faisions des formations bibliques au Soudan, et puis les pasteurs ne venaient pas aux formations bibliques. Ils allaient chercher de la nourriture dans les arbres pour leur famille. Donc, nous avons pensé aussi à apporter une aide matérielle à ces chrétiens persécutés, des microcrédits pour les aider. Quand vous avez tout perdu, c'est difficile de repartir de zéro. Mais si on leur donne une voiture, eh bien, ils peuvent faire taxi, gagner leur vie, ou un stock de chaussures. Et puis voilà, ça leur permet de redémarrer à gagner leur vie. On ne veut pas qu'ils dépendent de nous, mais qu'ils puissent gagner leur vie, être autonomes. Et puis une aide matérielle et psychologique aussi aux veuves. Au Nigeria, beaucoup de veuves, 2800 veuves, 2000 orphelins, 300 églises détruites par les groupes Boko Haram, etc. Et donc, on a vu que ces veuves avaient besoin aussi d'aide psychologique et qu'elles avaient besoin aussi d'être guéries de ces blessures qu'elles avaient vécues. Et puis, des maisons refuges pour ces chrétiens qui sont d'anciens musulmans et qui sont menacés de mort par leur propre famille. J'étais dans le nord du Nigeria l'année dernière et j'ai pu visiter une de ces maisons refuges. Portes Ouvertes en soutient 4 là-bas dans le nord du Nigeria, mais il y en a d'autres aussi. Et ce sont des maisons où, celles que j'ai visitées, il y avait 25 chrétiens qui sont tous d'anciens musulmans, qui sont menacés de mort par leur propre famille parce qu'ils ont quitté l'islam. Et certains, ce sont des jeunes célibataires, certains, ce sont des couples, mais certains, ce sont aussi des gens qui sont mariés et qui sont menacés de mort par leur propre conjoint. Et ils sont venus là, dans cette maison, se réfugier. Et ils ont des cours bibliques, ils ont aussi des cours pour apprendre un métier. Et puis voilà, quand ils ont retrouvé leur équilibre, eh bien ils repartent faire leur vie ailleurs. Voilà. Et donc ils passent en moyenne une année, en moyenne, dans cette maison. Et cette maison fonctionne depuis 13 ans et il y a environ 25 personnes dans cette maison. Donc vous pouvez faire le calcul sur combien de personnes à peu près sont passées dans cette maison. Et il y a, c'est vrai, beaucoup de conversions là-bas, de gens qui découvrent Jésus, qui décident de le suivre malgré les risques, malgré les difficultés, malgré la souffrance, et qui s'engagent parce qu'ils ont trouvé en Jésus eh bien, quelqu'un, un trésor plus grand que leur propre vie. Et donc, merci de prier, spécialement pour ces maisons-refuges qui sont tellement importantes. La situation des chrétiens d'origine musulmane aujourd'hui dans ces pays du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord est la même que celle des protestants ici, il y a 500 ans, ici en France. Tout est fait pour les faire revenir là où ils étaient. Alors, cette église qui grandit a besoin de nos prières, et merci de prier pour eux. Vous savez, vous avez tous entendu parler du printemps arabe, hein? Je ne vais pas vous en parler, je ne vais pas vous décrire ce qui se passe, mais vous le savez, certains, il y avait un espoir dans ces pays de plus de liberté, de démocratie, et puis voilà que c'est les frères musulmans qui prennent le pouvoir en Égypte, qu'en Tunisie aussi, ce sont des islamistes, et peut-être en Syrie, on ne sait pas, mais enfin dans plusieurs pays. Et alors qu'est-ce qu'il nous faut faire, hein? Il nous faut dire, eh bien voilà, c'est dommage, c'est raté, ou bien est-ce que c'est le moment de prier, de continuer à prier pour ses frères et sœurs qui sont dans ces pays, hein? Vous savez, ce qui nous encourage, c'est de voir que en Iran, hein, l'Iran, là où depuis 79 les ayatollahs imposent un islam fondamentaliste, eh bien c'est là où il y a le plus de conversions. C'est là où il y a 300 000 Iraniens, anciens musulmans, qui se sont fait baptiser. Alors, je ne dis pas qu'il faut prier pour des gouvernements fondamentalistes, c'est pas ça du tout, hein. Mais voilà, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre dans ces pays, et mon collègue qui est responsable de l'Iran pour Portes Ouvertes me disait, Eric, tu sais, je peux pas te dire combien il y en a exactement de ces chrétiens qui sont d'anciens musulmans là-bas dans ce pays, mais il m'a dit, c'est le pays où il y en a le plus, et il m'a dit, il y en a, tu sais, entre 300 000 et 1 million. Voilà, on sait qu'il y en a plus de 300 000, ça c'est une certitude, mais on sait qu'il y en a moins d'un million aussi aujourd'hui. Alors, qu'ils se réunissent bien sûr clandestinement, hein, parce qu'il est interdit de quitter l'islam dans tous les pays où il y a la charia, et donc ces frères et sœurs n'ont pas le droit de se réunir, et ils se réunissent clandestinement. Hein. Mais c'est encourageant de voir aussi qu'en Libye, qui est un pays qui n'a connu que l'islam pendant 1400 ans, hein, eh bien, il y a la première communauté libyenne. Depuis quelques années, il y a un petit groupe. Ils étaient 29 il y a 3 ans, ils étaient 29 libyens, tous d'origine musulmane, et tous qui ont décidé de suivre Jésus et qui se réunissaient, je ne sais pas ce qu'il en est exactement aujourd'hui vu les événements, mais qui se réunissaient une fois par mois. Ils disaient, sous Kadhafi, tout le monde surveillait tout le monde, c'était un état policier, et ils disaient, on se réunit une fois par mois, parce que toutes les semaines, c'est trop dangereux. Mais vous vous rendez compte, la première communauté libyenne, avec un pasteur libyen, qui lui-même était un ancien musulman, il s'est converti avec sa femme, tous les deux, et puis tous les soirs, ils lisaient la Bible, ensemble, et puis la police est arrivée. Les Bibles étaient là, sur la table du salon, hein, sur la table de la pièce principale, et puis la police arrive. Nous suspectons que vous êtes chrétien. Est-ce que vous êtes chrétien ? Oh, frère, il ne savait pas quoi répondre, hein. Il se dit, si je dis oui, bah, c'est fini, hein. Si je dis non, je dis pas la vérité. Alors il a répondu, c'est vous qui le dites, il a dit. Ils ont dit, on va fouiller ta maison. On est sûr, on va trouver des livres chrétiens. On va trouver, on est sûr. Ils ont fouillé la maison. Ils n'ont pas vu les Bibles. Elles étaient là, ouvertes, sur la table, hein. Et ils n'ont pas trouvé. Et donc ce frère a déménagé parce que voilà, la police voulait revenir. Et il est toujours en Libye, mais dans une autre ville. Mais il a commencé cette petite communauté libyenne avec 29. Mais ils ne sont pas que 29. Ils sont 29 à se réunir, hein. Mais il y en a d'autres, il y en a bien d'autres. Ce serait trop long à raconter, mais qui ont décidé aussi de suivre Jésus dans ce pays. Et ces événements du printemps arabe ont permis que de la littérature chrétienne rentre dans ces pays. Je ne peux pas vous en dire plus, hein, mais voilà, vous pouvez imaginer, hein. Alors, on se continue quand même. Maison refuge, vas-y. Alors, 2004, on s'est aperçu qu'on pouvait aussi aider ces chrétiens par de l'aide juridique, soit en allant auprès des parlementaires européens ou des membres de l'ONU pour leur parler de ce qui se passe dans ces pays, pour qu'ils soient au courant de la persécution des chrétiens, parce que bien souvent, ils ne savent pas. Et puis aussi une action juridique auprès de ses frères et sœurs qui ont besoin d'avocats. Vous avez entendu parler d'Asia Bibi, donc condamné à mort par les lois de blasphème au Pakistan, mais il y en a aussi, par exemple, au Nigeria. Un couple était tous les deux chrétiens, et puis lui n'avait pas de travail, et pour obtenir un travail, il se convertit à l'islam. Et donc, quelques années après, donc la femme reste chrétienne, elle élève les enfants dans la foi chrétienne. Quelques temps après, le mari meurt. Et donc, la famille du mari arrive vers la maman, vers la mère, et puis lui dit, ben voilà, ton mari était musulman quand il est mort, donc les enfants sont musulmans, donc comme toi tu es chrétienne, eh bien on va t'enlever les enfants et on va les élever dans la foi musulmane, et tu n'as rien à dire. Alors nous lui avons payé un avocat pour se défendre, et elle a pu garder ainsi ses enfants et continuer les élever dans la foi chrétienne. Mais voilà, il y a besoin aussi d'aide juridique pour aider ces chrétiens persécutés, vas-y. Donc, portes ouvertes, eh bien, le travail, donc, c'est devenu une grande mission aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. Et l'année dernière, nous avons pu mettre entre les mains des chrétiens de ces pays persécutés plus de 3 millions de Bibles pour enfants, matériel de formation dans près de 50 pays. Et puis, faire des formations théologiques, des formations bibliques pour 263 000 et quelques chrétiens pour les encourager. Et puis aussi donc un soutien matériel pour 172 000 chrétiens qui vivent dans ces pays pour les aider à recommencer leur vie et les aider aussi psychologiquement. Voilà, je crois que c'est... Si, voilà un peu les pays. Alors les pays en rouge, ce sont les pays où il y a des bureaux, comme en France, des bureaux dans des pays libres pour faire l'information, comme on fait aujourd'hui, l'information dans les églises, dans les pays libres, pour informer les chrétiens. Donc il y a des bureaux dans 21 pays, donc en Europe, aux États-Unis, au Canada, et puis vous voyez aussi au Brésil, en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ce sont les bureaux dans les pays libres pour faire l'information et parler de portes ouvertes, et puis parler de l'Église persécutée, encourager les chrétiens à prier pour ses frères et sœurs, pas les oublier, pas les abandonner, et puis des pays, donc environ... presque 60 pays fermés où nous faisons le soutien à l'Église persécutée. Donc ça va, vous voyez, de la Corée du Nord jusqu'à la Colombie, le Mexique, et en passant par l'Iran et l'Arabie Saoudite et l'Irak et l'Afrique du Nord et tous ces pays. Et puis quelques pays où on fait à la fois l'information dans les églises, comme en Indonésie, c'est les pays en jaune. En Indonésie, on fait à la fois l'information dans les églises. Il y a des grandes églises sur l'île de Bali, même dans d'autres îles. Il y a des grandes églises où on fait l'information. Et puis, on fait aussi le soutien à l'église persécutée dans des régions comme l'île d'Ambon, l'île de Sulawesi, ou la banlieue de Jakarta, où un collège biblique a été détruit il y a quelques années et où les élèves de ce collège biblique ont été attaqués. Voilà. Alors, merci. Alors, je terminerai simplement en disant, si tu as le PowerPoint sur la fin de Portes Ouvertes, nous organisons pas mal de choses ici en France pour les chrétiens français. Nous avons un week-end au mois de novembre, ce sera cette année les 3 et 4 novembre, un week-end dans la région parisienne où les orateurs sont des frères et sœurs qui viennent de ces pays. Normalement, nous devrions, si le Seigneur le permet, avoir un frère de Libye qui devrait venir cette année. Nous avons invité plusieurs frères justement de ces pays arabes, de ces pays du printemps arabe, pour qu'ils nous parlent un peu de ce qu'ils ont vécu et que nous puissions aussi comprendre ce qu'ils vivent et nous encourager les uns et les autres à prier pour eux. Et puis, vous pouvez visiter ces frères et sœurs, ces chrétiens dans ces pays. Nous organisons chaque année des voyages au Maroc, en Mauritanie, en Iran, en Corée du Nord, certains voyages pour aller prier dans le pays, d'autres voyages pour aller visiter des chrétiens, les encourager, d'autres voyages pour aller porter des bibles, des voyages pour aller faire les trois en même temps. Et c'est toujours une expérience merveilleuse. Vous savez, le groupe qui est allé, un groupe qui est allé porter des Bibles en Libye il y a quelque temps. Ils avaient 1000 Nouveaux Testaments en arabe. Alors, ça ne se cache pas, 1000 Nouveaux Testaments en arabe, c'est difficile de les cacher. Et arrivé à la douane, eh bien, le douanier a reçu, le douanier qui fouillait les bagages a reçu un coup de fil sur son téléphone portable. Et pendant qu'il était bien occupé à téléphoner soigneusement, hein, voilà, vous imaginez, hein, alors toute l'équipe est passée. Merci Seigneur. Hein. Voilà, c'est pas dur, hein, il suffit de passer un coup de fil au douanier. Bon, mais c'est pas nous qui le passons. Ce n'est pas nous qui passons le coup de fil douanier, il y a quelqu'un qui prévoit et qui s'arrange pour que ça marche. Vous avez le site de Portes Ouvertes, vous avez sur ce site, vous avez une pétition pour les chrétiens algériens, vous avez un site pour les jeunes, undergroundfr.org, vous avez des livres là-bas sur la table à la sortie, vous avez ce livre « Bienheureux les persécutés », pour moi qui l'ai dit, hein. C'est dans Matthieu, chapitre 5, les Béatitudes. Vous avez l'index mondial de persécution, la persécution des chrétiens dans le monde, donc les tendances et le résultat de 2012, et, quels sont les pays où la persécution est la plus forte, quelles sont les évolutions par rapport à l'année précédente. Vous avez ce livre de Raphaël Delpart, donc c'est un romancier cinéaste français qui est athée et qui a écrit ce livre, qui a voyagé dans ces pays et qui a écrit ce livre. Il a été touché par la persécution des chrétiens et il a écrit ce livre. C'est un livre très, très intéressant parce que c'est un non-chrétien qui parle de la persécution des chrétiens. Et puis vous avez ce livre « À toute épreuve ». Donc qui, lui, est écrit par un journaliste de Portes Ouvertes, Ron Macmillan. Et dans ce livre, eh bien, il fait un panorama aussi de la persécution des chrétiens aujourd'hui dans le monde. Et il parle aussi de qu'est-ce que nous pouvons apprendre de l'Église persécutée. C'est vrai qu'ils ont, besoin de nous, hein, ils ont besoin de notre soutien, notre aide, mais nous aussi, est-ce que nous n'avons pas aussi besoin d'eux pour, est-ce que leur exemple, leur persévérance ne fortifie pas notre foi, hein? Voilà, c'est aussi une occasion pour nous de fortifier notre foi à travers l'exemple de ces frères et sœurs. Et vas-y, continue. Vous pouvez écrire à ces chrétiens. Voilà ici une sœur au Nigeria qui a perdu son mari lors d'une attaque d'un quartier chrétien de Jos. Le même jour, son mari et son gendre ont été tués dans cette attaque. Et nous avons diffusé son nom et son témoignage sur notre liste Écrivez-leur, qui se trouve sur Internet, sur notre site. Et cette sœur, cette sœur a reçu des cartes du monde entier, elle les a affichées sur son mur, et puis elle en a mis aussi, voyez, au plafond, les cartes doubles, elle les a mis sur des ficelles au plafond. Vas-y, continue. Voilà, vous avez sur notre liste Écrivez-leur, en ce moment, vous pouvez écrire aux chrétiens tunisiens. Donc il y a tout un texte. Pour vous encourager à écrire à ces chrétiens tunisiens, vous écrivez une carte, vous pouvez mettre des versets bibliques dessus, c'est pas un problème du tout. Vous pouvez écrire quelques mots pour encourager ces chrétiens tunisiens qui sont en général donc des anciens musulmans. Hein, et vous adressez votre courrier donc dans une enveloppe à Portes Ouvertes, à notre bureau. Et donc, nous déchirerons l'enveloppe, hein, et nous garderons la carte, parce qu'il faut pas, on peut pas emmener des cartes dans ces pays marquées Portes Ouvertes, vous voyez. Alors, on déchire l'enveloppe sur laquelle vous avez marqué Portes Ouvertes, et puis on prend la carte, et on la fera parvenir à ces chrétiens quand on ira là-bas dans ces pays. Voilà. Et puis, vas-y, termine simplement par ceux qui souhaitent prier pour cette église persécutée. Eh bien, je vous encourage à vous informer sur ce que vivent nos frères et sœurs persécutés. Et vraiment, nous voulons faire notre maximum pour que chaque chrétien puisse savoir ce qui se passe dans ces pays à travers notre site internet, à travers le fil rouge, à travers aussi le magazine Rencontre. Certains le reçoivent. Ce magazine vous permettra d'avoir des nouvelles de l'église persécutée, vous permettra aussi d'avoir connaître les projets de Portes Ouvertes dans ces pays, et puis vous permettra aussi d'avoir ce calendrier de prière. C'est ce que nous considérons la chose la plus importante. C'est vraiment de prier, de prendre une minute chaque jour pour lire ce sujet, vous le mettez dans votre Bible, et puis voilà, vous priez pour ses frères et sœurs. Vous lisez ce sujet, vous priez pour ses frères et sœurs, vous pourrez prier pour des frères et sœurs en Corée du Nord, en Chine et dans tous ces pays, et vous pourrez voyager comme ça par la prière. hein, pour soutenir ses frères et sœurs qui sont persécutés. Alors pour cela, eh bien, vous suffit, j'ai mis des feuilles là-bas sur la table, il vous suffit de remplir ce talon, laissez vos coordonnées, postales et puis email, et vous me laissez 11 euros, c'est 1 euro par mois pour ce magazine, et on vous enverra ce magazine Rencontre pour que vous puissiez continuer à être informé sur l'Église persécutée. Voilà, alors ces petits feuillets sont collés sur ces feuilles, donc ça, vous le gardez, c'est pour vous, hein, et puis ça, vous le remplissez, et vous me le remettez aujourd'hui avec 11 euros, et on vous enverra ce magazine. Voilà, et puis je vous encourage à organiser aussi des réunions de prière pour l'Église persécutée. Il y a la possibilité pour une personne par Église d'être notre correspondant local, notre antenne, on appelle ça une antenne. Et donc là, il y a un dossier donc, qui doit être rempli et qui doit être signé par le pasteur pour qu'une personne dans votre Église soit notre correspondant local. On lui enverra un peu plus d'informations chaque mois, une lettre d'antenne, et cette personne pourra comme ça soit transmettre ses sujets de prière à la réunion de prière ou bien organiser des réunions de prière pour l'Église persécutée, peut-être même inter-Église, je ne sais pas, hein, mais que le Seigneur vous encourage à continuer à prier pour cette Église persécutée. Voilà, merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.